RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
C'est une maladie dont les véritables raisons demeurent encore mystérieuses et qui touche pourtant en France une femme sur 10 en âge de procréer. Je parle de l'endométriose, cette maladie complexe qui tire son nom de l'endomètre. Alors on va reprendre les cours de SVT. L'endomètre, c'est un tissu, cette muqueuse qui tapisse l'utérus et qui se met donc à déborder chez les femmes qui sont atteintes d'endométriose pour aller coloniser parfois d'autres organes du secteur. Une affection gynécologique qui impacte véritablement la qualité de vie de ces millions de femmes à travers le monde qui sont concernées avec des symptômes souvent similaires, des dysfonctionnements intestinaux, des règles abondantes, mais aussi, je ne vais pas m'étaler car on va en parler, des douleurs pendant les rapports sexuels, voire même des soucis d'infertilité. Alors en cette 20e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose qui se déroule jusqu'au 10 mars et à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, je vous propose pendant une heure de tenter de mieux comprendre cette maladie parce que de nombreuses femmes continuent de vivre avec ces symptômes sans recevoir de diagnostic précis ni de prise en charge adéquate. Et parce qu'il est possible, avec une sensibilisation accrue, d'améliorer les perspectives de ces personnes touchées par cette maladie dite invalidante. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Vous souffrez d'endométriose, venez témoigner. Dites-nous comment vous avez été diagnostiqué et quel est votre quotidien. Est-ce que cette maladie impacte votre vie et de quelle manière d'ailleurs? Et puis comment avez-vous réussi à trouver de l'aide et à en parler? Je m'adresse aussi aux proches de patientes atteinte de l'endométriose. Vous avez la parole bien sûr au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et notez que dans la seconde partie de l'émission, on parlera de la précarité menstruelle qui concerne entre 1,5 et 2 millions de femmes en France, des femmes qui renoncent à changer de protection périodique régulièrement du fait de leur coût. On essaiera de lutter contre cette précarité à 10h. Pour discuter justement jusqu'à 10h, je vous présente nos trois invités, trois femmes, une gynécologue, une patiente et une journaliste. Bonjour Camille Grange.
Bonjour Melchior.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la journaliste, journaliste indépendante pigiste. Si vous êtes avec nous ce matin, c'est parce que vous êtes l'autrice d'une bande dessinée sortie en avril 2022, elle va souffler ses deux ans, intitulée « Les liaisons dangereuses, enquête sur l'endométriose ». Vous vous êtes entourée d'une illustratrice belge qui s'appelle Mathilde Manka pour écrire cette BD. Pourquoi ce format, la bande dessinée, pour raconter l'endométriose?
Le but premier de l'utilisation de la bande dessinée, c'était de faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Moi, mon objectif, c'était non pas de raconter l'endométriose pour les femmes, puisqu'elles la connaissent souvent déjà parfaitement sur le bout des doigts, mais que ce soit accessible vraiment à un public très large. Donc forcément aux hommes qui ne la connaissent pas, mais vraiment à tout le monde, puisque moi aussi, dès le départ, je connaissais absolument rien de cette maladie avant de travailler dessus, quoi.
Et vous êtes entouré pour écrire cette bande dessinée. C'est une véritable enquête finalement, une enquête journalistique, mais avec le format bande dessinée, avec des professionnels de la santé, des patientes bien sûr. On aura l'occasion d'en discuter dans cette émission. Bonjour Céline Ferrara.
Bonjour.
Merci à l'équipe de RCF à Saint-Étienne qui vous accueille en studio et bienvenue. Vous souffrez d'endométriose vous-même. Vous êtes la vice-présidente aussi d'une association qui s'appelle EndoMind, créée en 2014 par et pour des femmes souffrant d'endométriose. Céline Ferrara, c'est bien ça?
Tout à fait. Merci beaucoup de votre accueil. Je suis effectivement moi-même atteinte d'endométriose et diagnostiquée depuis quelques années maintenant, mais tardivement, puisqu'en fait, on sait que le très gros enjeu de cette pathologie, c'est son diagnostic très tardif, beaucoup trop tardif. Donc, les informations tombent à point nommé ce matin. Effectivement, si il existe une solution pour diagnostiquer l'endométriose qu'on porte chez EndoMind, c'est le fait qu'on puisse permettre à toutes les femmes d'avoir un diagnostic beaucoup plus précoce.
Je vous présente notre troisième invité, docteur Christine Rousset-Jablonski. Bonjour.
Bonjour monsieur,
bonjour à tous.
Merci également à vous pour votre participation. Vous êtes gynécologue médicale, vous êtes référente pour Andora, un réseau de professionnels de la santé axé autour de la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous intervenez également au centre Léon Bérard et aux hospices civils de Lyon. Alors je vais commencer avec vous docteur, hein, histoire de bien poser le décor. Et je pense que ce que j'ai dit en introduction n'était pas très complet. Qu'est-ce que c'est l'endométriose ?
Alors effectivement, vous avez évoqué l'origine de cette maladie, donc qui est l'endomètre, donc la muqueuse qui est à l'intérieur de la cavité utérine. Effectivement, la maladie endométriose correspond au fait d'avoir de l'endomètre, donc des cellules d'endomètre, en dehors de sa position physiologique classique, donc dans la cavité utérine. Et donc on va pouvoir retrouver ces cellules endométriales le plus souvent dans ce qu'on appelle nous la cavité péritonéale, c'est-à-dire dans le ventre, c'est-à-dire dans la cavité où se trouvent les organes gynécologiques, mais également, comme vous l'avez dit, ça va pouvoir parfois coloniser des organes de proximité, notamment au niveau du tube digestif, ou la paroi de l'utérus elle-même. Donc on parle dans ce cas-là d'adénomyose, qui est une forme d'endométriose un petit peu particulière.
C'est une maladie dont on connaît encore mal les causes, hein, docteur Christine Rousset-Jalonski, même si ça bouge beaucoup en termes justement de recherche.
Il y a maintenant beaucoup de projets de recherche sur cette pathologie, du fait notamment de sa fréquence et puis de l'impact qu'on connaît pour la vie des femmes. C'est vrai que les causes sont mal connues, alors aussi parce que probablement elle est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a maintenant, on suspecte quand même des causes environnementales, mais également des facteurs génétiques, en tout cas des facteurs de risque familiaux, et puis des facteurs de risque individuels en fonction des imprégnations hormonales et de ce qui va se passer au cours de la vie de la femme.
Alors, vous avez entendu Camille Grange et Céline Ferrara, il y a quelques instants, nous dire à quel point le diagnostic était compliqué pour cette maladie. Pourquoi d'ailleurs, docteur ? Pourquoi le diagnostic peut mettre autant de temps avant de tomber ?
Alors en fait, la difficulté, c'est que le diagnostic de certitude, historiquement, était sur l'analyse de coupe donc au microscope, hein, anatomopathologique. Donc pour ça, il fallait avoir été opéré, ce qui évidemment n'est pas du tout ni souhaitable ni le cas chez toutes les femmes. Et on a donc d'autres outils pour faire un diagnostic, comme l'imagerie, donc notamment l'échographie, mais surtout l'IRM pelvienne, qui est actuellement donc l'examen le plus sensible pour détecter cette maladie. Mais malgré la sensibilité de cet examen, on sait qu'on ne voit pas toutes les endométrioses, notamment certaines formes d'endométriose superficielle, alors que l'impact en termes de douleur peut être majeur, même sans voir ces images. Et donc, on a parfois une suspicion diagnostique, mais sans en avoir la preuve.
Céline Ferrara, j'aimerais qu'on apprenne un peu à vous connaître dans cette émission. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour vous ? Comment justement avez-vous vécu ces premières années peut-être avant d'avoir ce diagnostic ?
Alors, parcours somme toute assez classique. J'ai été victime de douleurs pelviennes depuis ma puberté, mais sans parvenir à faire entendre autour de moi la normalité de ces douleurs, probablement parce qu'à l'époque, il n'était pas vu comme anormal d'avoir des douleurs aussi handicapantes et aussi paralysantes. Ce sont des douleurs qui sont, paralysantes au point d'avoir des impacts sur la capacité à avoir une vie quotidienne normale, une vie professionnelle, une vie scolaire, une vie qui n'empêche pas de sortir de son lit le matin. Mais voilà, on était aussi à un moment où ces douleurs n'étaient pas pointées du doigt comme anormales, ou en tout cas pouvant faire écho à une pathologie et vécues comme quelque chose. Pour le dire plus simplement, l'idée générale, c'est que quand on est une femme, on a mal au ventre quand on a ses règles et c'est normal, sauf que ça ne l'était pas. Et que c'est au moment d'une volonté d'avoir un enfant que s'est révélée cette pathologie, et au moment d'ailleurs d'une intervention chirurgicale pour un kyste qui avait été vu à l'imagerie justement, mais pas identifié comme de l'endométriose. Donc c'est effectivement lors d'une opération qu'on a découvert qu'il y avait une forme d'endométriose assez, je dirais pas avancée parce que c'est pas en ces termes qu'on dit les choses, mais en tout cas qui avait déjà impacté lourdement mon système gynécologique, mes organes gynécologiques.
C'était en quelle année ?
C'était en 2014.
Donc il y a 10 ans.
Ouais, tout à fait. Et du coup, la prise en charge a été partielle puisque on est aujourd'hui, on a bien avancé, mais à l'époque, dans une capacité de compréhension et de prise en charge de cette maladie encore faible, normale. Elle n'était pas encore prise comme un véritable enjeu, ce qui a beaucoup changé depuis. Et l'existence de la filière Endora et d'autres filières en France d'une stratégie nationale endométriose a beaucoup fait évoluer les choses depuis. C'est encore en chemin, mais on a déjà bien avancé. Mais voilà, une vraie difficulté à prendre en charge du quotidien pour les femmes, mais aussi cette maladie dans toute sa complexité. Et dans sa compréhension d'ailleurs, pardon.
Pas de problème. Camille Grange, les liaisons dangereuses, enquête sur l'endométriose. Hein, je rappelle, c'est le nom de cette bande dessinée que vous avez publiée en avril 2022. Vous avez découvert un monde dans cette enquête.
Totalement. Pour moi, c'était le sentiment vraiment d'être arrivé quelque part et de découvrir des dizaines et des dizaines de femmes, en fait, qui me tendaient une main et surtout qui étaient surprises que je m'intéresse à elles, qui souvent même ne me croyaient pas quand je disais que je n'étais pas concernée, parce qu'elles me disaient « c'est la première fois qu'on s'intéresse à nous ». Et ça, c'était en 2019, quand j'ai commencé à vraiment travailler dessus. Et voilà, les histoires que moi je recueillais, c'était les mêmes que celles de Céline Ferrara. C'était des femmes qui avaient un parcours qui durait depuis des dizaines d'années parfois et qui prenaient des traitements très lourds et qui n'avaient pas de vie en fait. Tout ça a détruit leur vie et elles devaient s'adapter à tout ça, quoi.
Docteur Christine Rousset-Jablonski, en 10 ans, ça a beaucoup bougé. Quand on entend cette difficulté à en parler, hein, aussi, c'est ce qu'on ressent et ça, on va pouvoir en discuter. Mais rien qu'à cette difficulté à poser un diagnostic, à essayer de comprendre ce qu'il se passe. Est-ce que ça a beaucoup bougé?
Oui, très nettement, ça a énormément bougé au cours des 10 dernières années. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience du corps soignant sur l'importance de cette maladie en nombre de femmes concernées et sur le retentissement sur leur vie. Je pense qu'il y a eu un gros travail par les associations de patientes qu'on peut vraiment souligner. Et donc, il y a eu une orientation forte. De moyens mis à disposition pour des projets de recherche et pour l'information aussi du grand public et des soignants. Et donc ça a évolué beaucoup, à la fois sur les travaux de recherche, comme on disait tout à l'heure, mais aussi dans la prise en charge clinique des patientes. Je pense que maintenant, tout professionnel de santé est beaucoup plus sensibilisé à cette maladie et l'évoque beaucoup plus que ça ne l'a été avant.
J'aimerais qu'on écoute Gwenola au 04 72 38 20 23. Bonjour Gwenola.
Bonjour Mekia, bonjour à tous. Je voulais donner de l'espérance un peu aux femmes déjà parce que moi j'avais de l'endométriose et j'ai pu avoir un enfant. Donc déjà, ça c'est le premier point. Au final, je ne le savais pas, donc ça m'a peut-être aidé. Mais moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu j'ai un tableau de douleur type fibromyalgique depuis que j'ai 15 ans suite à un accident de voiture. Donc quand j'ai eu mes règles et tout, on n'a pas diagnostiqué, on mettait toujours ça sur du côlon irritable, sur beaucoup de choses. Et puis bon, j'ai fait avec cette douleur. Par contre, au moment après l'accouchement, ça s'est nettement aggravé. Et mon état s'est dégradé. Et faut voir que chez les femmes, la notion de douleur est très vite connotée psy. Et donc, ils m'ont enfermée dans une étiquette psy, au tableau fibromyalgique, on peut rien faire, etc. Et je me suis retrouvée à l'âge de 30 et quelques, 30, pendant plus de 5 ans hein, quand même, à être après manger sous les tables, pliant à plus pouvoir marcher, à plus pouvoir travailler, enfin, à être affectée. Et donc, toujours psy, etc. Et puis, par miracle, 4 ou 5 ans après, j'ai eu un paramètre inflammatoire parce qu'il y avait un tableau kystique. Donc j'ai la CRT, un paramètre inflammatoire qui était très élevé.
Oui.
Donc là, ils se sont affolés, mais d'un point de vue rhumatoïde, et comme ils ne trouvaient pas, bon, c'était psy. Et au final, c'est moi qui ai tapé du poing sur la table, j'ai cherché sur Internet, j'ai vu que ça pouvait être lié aux ovaires, j'ai dit, mais on ne va pas faire un spécialiste tous les deux mois, moi je suis en train de crever sur place. J'ai dit, je peux aller voir ma gynéco. Le matin, je voyais ma gynéco, l'après-midi, j'étais chez le radiologue, le lendemain matin, j'étais chez le chirurgien, et même là, le chirurgien, partez en vacances, c'est bon, c'est rien, etc. Et s'il n'y avait pas eu ma gynéco, je ne sais pas où je serais. Parce qu'elle a dit, vous savez, je la connais. Vous voyez l'émotion.
Ouais, on l'entend.
Je la connais et c'est une battante. Si elle vous dit qu'elle en peut plus, il y a un problème. Et le jeudi, j'étais sur le billard, j'étais couverte d'endométriose. Je peux vous dire qu'au bout de 5h30 d'opération, ils n'y ont pas pu tout faire. J'ai été réopérée 6 mois après, 1 an après, bon, ça finit par enlever l'utérus et les ovaires parce que c'était trop tard, le diagnostic est arrivé trop tardif. Mais voilà. Quoi.
Mais ça a pris beaucoup de temps, et Gwenola. Et, voilà. Et merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin et avec ce message d'espoir, quand même, même si c'est dur aussi d'entendre ce que vous avez dit. Et Camille Grand, je me tourne vers vous, je cite Gwenola. J'ai fait avec cette douleur pendant quelques années et j'étais en train de crever. C'est très brutal.
Terrible.
Et ça,
ouais,
vous avez entendu ça, vous, dans votre enquête?
Toutes. Au début, toutes. Parce que j'ai passé beaucoup d'appels à témoignages, notamment sur les réseaux sociaux. Et les femmes qui sont venues vers moi, il faut savoir que, donc là je parle encore de 2019, donc c'était il y a très longtemps on va dire, au vu des avancées qu'il y a eu dernièrement, mais c'était souvent des femmes qui connaissaient, qui avaient une culture scientifique qui était énorme et qui étaient tellement isolées avec toutes ces douleurs et toute cette vie impactée qu'en fait elles se renseignaient elles-mêmes et elles savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et elles se sentaient pas écoutées. Donc voilà, c'est des femmes qui vont consulter 4 gynécologues différents par an, qui font des centaines de kilomètres pour avoir cet espoir de trouver une clé. Et au final, elles y arrivent très très, très peu. Quoi.
Docteur Christine Rousset-Jablonski, est-ce que les professionnels de la santé sont mieux formés?
Alors, je pense que oui. Alors, en premier lieu, il y a il y a beaucoup plus de communication sur cette pathologie dans les congrès scientifiques et donc les professionnels de santé en exercice en entendent parler. Et puis, il y a eu donc à l'occasion de la réforme des études de santé, donc les programmes sont rediscutés régulièrement. Et il y a un item endométriose qui a été ajouté en deuxième cycle, c'est-à-dire pour les étudiants en médecine, entre la 3e et la 6e année. Donc ça, c'est quand même une énorme avancée puisque c'était un item qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que maintenant, tout étudiant en médecine entend parler de cette maladie et donc se doit de connaître les symptômes et puis les bases de la prise en charge. Donc oui.
Céline Ferrara, est-ce que vous êtes reconnue dans le témoignage de Gwenola qu'on a entendu à l'instant ?
Alors oui, complètement. Merci à Gwenola de ce témoignage. Chez Endomind, l'association que je représente, on a coutume de dire que l'endométriose, elle a effectivement des impacts sur la fertilité, mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'elle a des impacts sur toute la vie des femmes et que c'est en ça que pour nous, c'est important qu'elle soit reconnue parce que c'est littéralement une perte de chance pour ces femmes. Quand on entend quelqu'un dire « j'ai fait avec ces douleurs, je me suis débrouillée pour continuer ma scolarité, je me suis débrouillée pour trouver un emploi, je me suis débrouillée pour vivre ma vie familiale, pour élever mes enfants. On parle littéralement d'une maladie qui nous terrasse et pour lequel c'est même difficile de s'occuper d'un petit garçon, d'une petite fille. On peut pas se satisfaire de cette moindre qualité de vie. Évidemment que c'est difficile de se dire que ça impacte la fertilité, mais qu'en fait, le fait que ça impacte tous les aspects de la vie, c'est encore plus déplorable qu'on ne peut pas se satisfaire de cette situation. On a des femmes qui disent avoir perdu leur emploi à cause de la maladie, parce que absence trop répétée, parce que incompréhension de l'entourage professionnel. Et en fait, ça, c'est quelque chose contre lequel on essaye pour lequel on essaie d'agir, parce que c'est littéralement, encore une fois, une perte de chance pour les patientes. Et donc voilà, la question de la fertilité est hyper importante. Ouais. On sait à quel point c'est important, mais pour le reste des aspects impactants cette vie, c'est important aussi de s'en emparer.
Je rappelle que vous avez la parole ce matin dans Je pense donc j'agis pour nous parler de l'endométriose. Et si vous souffrez d'endométriose, venez témoigner, hein. Dites-nous comment vous avez été diagnostiqué et comment vous avez été prise en charge. 04 72 38 20 23. Camille Grange, hein, je rappelle que vous êtes l'autrice d'une bande dessinée sortie aux éditions Lapin qui s'appelle Les liaisons dangereuses, enquête sur l'endométriose. Qui avez-vous voulu contacter pour réaliser cette enquête? Des patientes, bien sûr, on l'a dit, vous l'avez dit.
Oui, premièrement, c'était des patientes, des femmes qui, comme je le disais tout à l'heure, venaient d'elles-mêmes vers moi en fait en disant « j'ai vu ton projet, est-ce que je peux t'aider ?» Et puis ensuite, bah, j'ai contacté des médecins, les associations de patientes aussi, donc les deux principales, EndoFrance et EndoMind. Et puis aussi, ce qui était très important, c'était les chercheurs. Il y en a pas beaucoup, mais c'était très important de les d'ajouter leur point de vue et de parler de leurs travaux et de parler un peu aussi de leur errance. Hein. À l'époque, ils avaient il n'y avait pas eu toutes ces annonces de moyens. Et puis aussi, ce que j'ai voulu ajouter, c'était aussi me tourner vers les pouvoirs publics, regarder quelles autorités, quels élus avaient pris la parole sur le sujet et quelles étaient les suites surtout. Et sans surprise, ben, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de suites, il n'y avait pas beaucoup d'écoute à ce sujet-là, en tout cas.
Et vous avez le sentiment que ça a quand même un peu évolué depuis 2019, depuis le début de votre enquête ?
Oui, je pense que ça a évolué et que c'est encore pas assez, mais le chemin est très long. Mais il y a quelque chose qui est assez notable, c'est que, j'ai plus l'année en tête, mais il y a quelque temps, le président Emmanuel Macron a quand même prononcé ce mot lors d'un discours. Et ça ne serait jamais arrivé il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Donc ça, c'est une petite chose, on va dire, mais c'est assez important à remarquer.
C'était en janvier 2022.
Voilà,
d'ailleurs, quelques mois avant la sortie de votre bande dessinée. Un message d'Anne-Laure reçu par mail à l'adresse direct@rcf.fr. J'ai 50 ans, j'ai souffert d'une forme d'endométriose. C'était l'adénomyose que le docteur Christine Rousset-Jablonski a cité tout à l'heure. Chaque mois, pendant 30 ans, je n'ai jamais été entendu par aucun médecin, généraliste, gynéco, sauf une femme gynéco qui l'a détecté à mes 35 ans, ne pouvant procréer un troisième enfant. J'ai passé tous mes examens d'études, entretiens d'embauche, rendez-vous de travail, sans tenir debout et en gérant mes douleurs de règles. À coups de doliprane, j'ai profité d'une opération lors d'un kyste à l'ovaire pour obtenir une ablation de l'utérus à 45 ans. Et depuis, je revis, nous dit Anne-Laure. Céline Ferrara, vous qui êtes la présidente, je le rappelle, de cette association qui s'appelle EndoMind, est-ce que des Anne-Laure, il y en a beaucoup qui vous disent après, je revis après donc cette parfois une opération, mais en tout cas après le diagnostic?
Alors oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui revivent aussi après une prise en charge pluridisciplinaire. On n'en passe pas nécessairement que par une ablation de l'utérus, mais bien heureusement, parce que c'est quand même une opération très conséquente. On en passe aussi par une prise en charge en ostéopathie, en kiné, avec des gynécos, avec des personnes qui traitent plutôt de la sphère digestive, parce qu'on sait que l'endométriose a des impacts sur la sphère digestive. Il y a mille manières de soulager les symptômes et les conséquences de l'endométriose. On dit presque qu'il y a une endométriose par femme et ça nécessite d'avoir une prise en charge adaptée. Vous demandiez tout à l'heure si la prise en charge avait beaucoup évolué.
Oui.
Bien heureusement, les filières de soins endométriose contribuent à mettre, à constituer des réseaux de professionnels et pas que des gynécologues. Ce qui est super important parce qu'on sait à quel point c'est important d'avoir une lecture pluridisciplinaire de cette pathologie et presque patiente par patiente. Donc, pour répondre à la question initiale, il y a énormément de femmes qui nous disent être soulagées, mais parce que la prise en charge a beaucoup évolué.
Une endométriose par femme, vous avez dit, Céline Ferrara, avec des femmes qui ne rencontrent aucun symptôme et qui pourtant sont atteintes d'endométriose. Ça aussi, c'est compliqué pour elles ou finalement, elles arrivent à vivre avec ça?
Alors effectivement, ce qui est très complexe dans cette maladie, c'est qu'il y a certaines femmes qui ont des formes d'endométriose assez lourdes et qui pour autant n'ont pas ou très très peu de symptômes. D'autres qui ont énormément de symptômes et qui ont des formes d'endométriose plutôt faciles à prendre en charge ou en tout cas moins invasives. Donc c'est aussi ce qui fait la complexité de la prise en charge. Et on ne sait pas aujourd'hui, on parlait de recherche précédemment, mais on ne sait pas aujourd'hui... Pourquoi est-ce que la maladie évolue d'une manière ou d'une autre? On n'a pas encore la certitude de toutes les raisons qui font qu'elle apparaisse ou pas, et de manière plus ou moins invasive selon les femmes. C'est ce qui fait vraiment cette complexité de prise en charge. Donc, il y a encore pas mal de travail, de recherche à opérer. C'est pour la raison pour laquelle l'association EndoMind a créé, il y a quelques années maintenant, la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, qui a vraiment cette vocation à lever des fonds pour pouvoir financer des programmes de recherche pour cette maladie, parce que les choses n'avançaient en tout cas pas assez vite pour nous au regard de l'enjeu global de cette pathologie. Et du coup, cette prise en charge, elle est... Elle a encore une fois beaucoup évolué, mais elle nécessite encore d'évoluer dans sa compréhension aussi de ce que veut dire la maladie et de ce qu'elle produit au quotidien.
Camille Grange, pour vous, en tant que femme, est-ce qu'il y a eu un avant et un après cette enquête ?
Oh oui, ouais, ça c'est sûr. Comme je disais tout à l'heure, moi je suis pas concernée par la maladie et c'est vrai que ça surprenait beaucoup les femmes que j'interviewais parce que elle me disait c'est la première fois qu'on va creuser le sujet et qu'on nous pose des questions très précises et qu'on nous écoute, on va dire, d'un point de vue médiatiquement ou sociétalement, quoi. Mais moi, ça, c'est sûr que dans ma vie personnelle et professionnelle, il y a eu un avant, un après et j'ai eu une écoute qui est pas la même après avoir fait ce projet, ça c'est sûr.
Parce qu'avant, vous pensiez que c'était un problème marginal et finalement, vous vous êtes pris une vraie claque.
Exactement. Et puis, je connaissais pas du tout, en fait. Je pensais pas que ça pouvait avoir tant d'impact. Bon, à l'époque, c'était un mot qu'on prononçait assez discrètement aussi. Mais naïvement, en fait, quand j'ai eu les premiers témoignages, je me suis dit, mais comment on peut vivre avec ça, en fait? Comment on en parle? Pourquoi on n'en parle pas?
Et on va continuer d'en parler, nous, en tout cas, dans Je pense donc j'agis, jusqu'à 10h ce matin, avec tous vos témoignages au 04 72 38 20 23. Si vous souffrez d'endométriose ou si vous avez souffert d'endométriose, vous avez la parole. Et bien sûr qu'on a envie de vous entendre nous dire comment vous allez aujourd'hui. 04 72 38 20 23. Petite pause, à tout de suite.
Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
À 9h30 dans Je pense, donc j'agis, ce matin, à l'occasion de la 20e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose et à la veille de la Journée internationale des droits des femmes. On prend une heure pour essayer de mieux comprendre cette maladie avec vos appels au 04 72 38 20 23. Si vous souffrez d'endométriose, venez témoigner, nous dire comment vous avez été diagnostiqué, quel est votre quotidien maintenant et est-ce que cette maladie a impacté votre vie et de quelle manière. On a envie de tout savoir. Et puis pareil, hein, si vous êtes proche de patientes atteintes de l'endométriose, venez témoigner. Digging through memories, I've been picking up pain. Found all of our baggage, don't fit under this plane. Hard to carry it anymore. Hard to move forward when we're stuck in our ways. Like running on empty in a high speed chase. But I don't wanna run anymore. Oh, you know, it's time to let you go. So let's set the past on fire. We could watch it burn all night. Leave it all behind. When the darkness turns to light, we'll be on the other side. Leave it all behind. Let's start a new life and get out of this town, cause who we were then isn't who we are now. We don't have to hurt anymore. Oh, you know, it's time to let it go. So they set the past on fire. We could watch it. Maëlys Smith pour vous accompagner en ce jeudi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec nos trois invités jusqu'à 10h pour parler de l'endométriose. Le docteur Christine Rousset-Jablonski qu'on va réentendre dans un instant, gynécologue médicale et référente pour Andora. C'est un réseau de professionnels de la santé axé autour de la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec nous également Camille Grange. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes l'autrice d'une bande dessinée sortie aux éditions Lapin, Les liaisons dangereuses, enquête sur l'endométriose. Vous l'avez publié en avril 2022. Et Céline Ferrara, vous êtes vous-même atteinte d'endométriose et vous êtes vice-présidente de EndoMind, une association de patientes pour les patientes créée en 2014. Comment vous allez, Céline Ferrara, aujourd'hui?
Alors plutôt bien, merci, parce que j'ai eu la chance d'être prise en charge par une très très bonne équipe et que j'ai beaucoup travaillé sur la manière de, en fait, adapter ma vie par rapport à cette maladie. J'ai commencé à faire du sport, ce qui a de très chouettes bénéfices sur la maladie. J'ai adapté mon alimentation aussi, puisque pour certaines femmes, on sait que ça a un impact. Du coup, c'est plutôt quelque chose qui est moins impactant sur ma vie aujourd'hui. Ça n'est pas le cas de toutes les femmes. Beaucoup font des efforts assez énormes pour faire en sorte de limiter l'impact de la maladie sur leur quotidien. Mais j'ai cette chance.
Qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de cette association EndoMind? Est-ce que c'est riche de pouvoir discuter de cette maladie avec d'autres femmes qui vivent la même chose que vous? Est-ce que ça vous permet peut-être de trouver de la force autre part?
Alors oui, mais en même temps, en fait, c'était motivé par quelque chose d'assez différent. Complètement déploré la manière dont les choses se sont passées au moment de l'annonce de mon diagnostic. J'ai déploré ces années d'errance sans avoir été entendue, que j'ai entendue beaucoup trop souvent. Hein, le témoignage de Camille est quelque chose qu'on entend très souvent. Ces femmes qu'on n'entendait pas dans leur douleur et dans les difficultés qu'elles vivaient au quotidien. Et en fait, je me suis retrouvée très vite dans un espèce de besoin assez fort de me dire ce que je vis, ça ne peut pas être le lot de toutes les femmes pour les générations futures. C'est pas possible. Il faut que les choses changent. Ma situation à moi, elle était à un instant T pas très bien vécue et en tout cas j'ai pu la gérer, mais du coup ça m'appartenait. Pour le coup, ce que j'ai déploré, c'est vraiment qu'on soit des millions à être dans cette même situation sans que les choses ne bougent depuis visiblement assez longtemps. Pour info, c'est une maladie qui a été documentée dans la littérature médicale en 1860 pour la première fois. Et en fait, en 2014, on était encore en train de chercher à batailler, à trouver des informations sur Internet. Et du coup, je trouvais ça assez déplorable. Donc, ma motivation, elle a été vraiment de se dire, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Et il se trouve qu'en France, c'est énormément les associations de patients qui ont poussé pour que les choses bougent en termes de prise en charge. Et du coup, je suis convaincue qu'aujourd'hui, on a tout un écosystème, les médecins, les patientes, les pouvoirs publics qui doivent être main dans la main et continuer à être main dans la main pour faire avancer cette prise en charge et cette connaissance de la maladie, pour que plus aucune femme ne se retrouve pendant 20 ans à attendre qu'on pose un diagnostic et qu'on les écoute sur leur douleur, quoi.
Camille Grange, comment on fait pour raconter l'endométriose, une maladie qui est quand même triste quand on entend ces nombreux témoignages? Comment on fait pour ne pas tomber peut-être dans une BD déprime? Parce que la vôtre, pour l'avoir feuilletée un peu, elle est plutôt positive. En tout cas, pas déprimante, pas triste.
Oui, je sais pas si je dirais positive, mais en tout cas, ce qui a été important, c'est que le but, c'était pas de faire peur, surtout. De pas te faire peur avec des jeunes femmes, par exemple, de pas faire peur à un entourage proche. Et au final, je me suis retrouvée à écrire un texte qui était rempli d'humour et de causticité, surtout parce que à chaque point abordé, il y avait toujours des moments où je me disais, je sais pas si je dois rire ou pleurer, quoi, en fait. Enfin, il y avait plein d'absurdités et il y en a toujours. Et le format de la BD a été adapté, était adapté pour ça, pour l'aborder d'une façon, pour vulgariser déjà les choses, puisque c'est quelque chose qui est très complexe, pour vulgariser même les bases de on parlait de SVT tout à l'heure, ouais. Voilà, clairement,
il y a beaucoup de métaphores.
Ça, oui, et il fallait que ce soit accessible à chacun, en fait. Je sais qu'il y a, bon, je dis des hommes, mais ça peut être des femmes aussi, et pour moi, il n'y a pas de différence, mais qui n'y connaissaient rien comme moi, et qui l'ont lu, et qui m'ont dit, ok, j'ai compris pourquoi c'était important, et pourquoi c'était un projet important, pourquoi il fallait qu'il existe, quoi.
Bonjour Barbara.
Oui, bonjour monsieur, bonjour à l'antenne. Donc voilà, je voulais vous parler de ce que j'avais eu, parce que j'ai eu trois enfants.
Oui.
Et les deux premiers sont venus comme prévu. Je suivais donc la méthode Billings, voilà. Et puis quand j'ai voulu avoir le troisième, il ne venait pas. Et je constatais que j'avais des grosses douleurs de ventre au moment des règles aussi. Et même quand je faisais du vélo, j'avais beaucoup de mal à faire du vélo. Et j'ai décidé de voir un médecin qui n'a pas pris ça très au sérieux. Il m'a donné des médicaments. Et ensuite, j'ai décidé d'aller voir un obstétricien qui m'a regardé. Il m'a dit, on va faire une fédioscopie pour voir si j'avais éventuellement une endométriose. Ça a été constaté. Et alors, il m'a donné des médicaments pour soigner l'endométriose. Et je ne désirais pas prendre ces médicaments. Je les ai pris à un moment. Et je suis allée voir un professeur à Paris qui soignait la stérilité. J'ai été pris à 100%, pris en charge, et il m'a soignée au laser. Il a passé donc la partie où je ne sais pas, il a refait donc une fibroscopie. Et il m'a dit « soyez patient ». Quand je l'ai revu, il était très aimable. Il a donc passé ça au laser et donc ça s'était passé en avril. Je me souviens, ma fille maintenant a 31 ans. Et en octobre, j'étais enceinte de mon troisième enfant. Mmh. Donc je voulais dire que ça peut soigner et j'ai l'impression de ne plus avoir de traces. Enfin, je n'ai pas fait vérifier. Mais,
Mais vous allez bien, Barbara.
Mais je vais bien.
Bon, bah, voilà. Écoutez, merci.
C'était pour dire qu'il y a des espoirs quand même.
Merci beaucoup Barbara pour votre témoignage au 04 72 38 20 23. Docteur Christine Rousset-Jablonski, vous êtes de retour dans cette émission. Je rappelle que vous êtes gynécologue médicale. Comment on traite l'endométriose? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de témoignages différents depuis le début de cette émission, avec des médicaments, des opérations, l'ablation de l'utérus, des ovaires. Là, on entend actuellement Barbara qui nous a parlé de laser. Est-ce qu'il y a vraiment un traitement efficace? Est-ce qu'on, là aussi, ça bouge? Je vais répéter ce mot tout au long de cette émission, en fait.
Oui, donc ça bouge effectivement et il n'y a pas un traitement de l'endométriose, mais il y a plusieurs traitements possibles, à la fois en fonction du type d'endométriose et puis de la situation de la femme, et aussi plusieurs traitements possibles au cours de la vie, parce que malheureusement, c'est une maladie avec laquelle il va falloir cohabiter, entre guillemets, en général jusqu'à l'âge de la ménopause. Parce qu'à la ménopause, naturellement, il n'y aura plus d'imprégnation hormonale et donc la maladie va, entre guillemets, s'éteindre. Mais donc il y a toute une partie de la vie de la femme en fait où il va falloir prendre en charge cette maladie. Donc une même femme va pouvoir avoir plusieurs traitements successifs et donc on a globalement d'un côté les traitements médicaux, donc par médicaments, et de l'autre côté les traitements chirurgicaux, donc opérations ou autres gestes type laser ou ultrason. Donc dans les traitements médicaux, en dehors des traitements de la douleur, qui en soi sont aussi une prise en charge très importante, hein, évidemment, avec aussi beaucoup de progrès sur la gestion de la douleur, les traitements médicaux, à ce jour, sont essentiellement des traitements hormonaux, c'est-à-dire des traitements qui vont freiner les sécrétions d'œstrogènes, qui est l'hormone qui va plutôt stimuler l'endométriose, et puis avoir un effet plutôt progestatif. Dans les traitements chirurgicaux, donc la chirurgie, pour qu'elle soit efficace globalement, il faut qu'elle puisse enlever toutes les lésions d'endométriose. Et donc parfois c'est compliqué puisqu'en fonction de l'étendue de la maladie, ça peut amener à des gestes très lourds. Donc c'est parfois des opérations qu'on essaie d'éviter. Et donc de plus en plus se développent des techniques pour être moins invasifs et donc notamment effectivement des techniques à base d'ultrasons ou les destructions par plasma jet, etc. pour certains kystes, qui peuvent éviter certains gestes plus délabrants, qui ne sont pas forcément accessibles pour toutes les endométrioses. Donc c'est vraiment du cas par cas. Et je voudrais simplement rebondir aussi sur quelque chose qui a été dans le témoignage juste précédent par rapport à la question de la fertilité, parce que c'est vrai que donc c'est souvent une maladie qui fait peur par rapport au risque d'infertilité. Donc effectivement, certaines formes d'endométriose peuvent induire des difficultés et des troubles de la fertilité, mais ça n'est pas du tout systématique. Donc c'est ce qu'a illustré madame juste avant, c'est qu'elle a eu ses deux premières grossesses voilà, sans problème particulier, et puis, pour le troisième, elle a eu plus de mal, et donc c'est ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des grossesses naturelles, tout comme il peut parfois y avoir des problèmes de fertilité, mais c'est pas du tout systématique.
Camille Grange, qu'est-ce que vous avez constaté, vous, dans cette enquête pour cette bande dessinée sur la fertilité? Est-ce que c'était des témoignages qui revenaient énormément?
Oui, alors la chose la plus remarquable, en tout cas qui m'avait le plus marquée à l'époque, c'était... J'avais interviewé pas mal de jeunes femmes, hein, de très jeunes femmes, 18-20 ans, et qui me parlaient tout de suite de ce problème d'infertilité qu'elles anticipaient et elles avaient très peur. Elles avaient 18 ans et elles me disaient peut-être que j'aurai jamais d'enfant, il faut que je fasse les choses maintenant, en fait, pour prévenir le fait que je pourrais pas en avoir ou alors que ça va être très difficile. Et vraiment, en fin d'interview, je leur disais souvent, mais tu es très jeune, et vraiment, elles avaient que ça en tête. Enfin, c'est pas dire qu'elles y pensaient tous les jours, mais quasiment, en fait. Ça, c'est une question qui les obsède, vraiment.
Ouais. À ce point-là, obsédé.
Ouais.
Céline Ferrara, ça vous a obsédé également? Parce que vous avez été confrontée à ce problème de fertilité.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est effectivement le cas de beaucoup de femmes. Quand on dit endométriose et qu'on cherche un tout petit peu de ressources sur le sujet, on voit très, très rapidement ces problèmes de fertilité. On voit énormément de témoignages de femmes qui disent ne pas avoir autant de facilité à avoir des enfants que la normale ou l'incapacité d'en avoir. Et effectivement, c'est une des problématiques, mais pas la seule, je le disais tout à l'heure. Pour certaines femmes, pas du tout un problème, pour d'autres, un gros problème. J'ai été, moi, prise en charge dans le cadre d'un parcours de fertilité dès le diagnostic, puisque c'était ce qui m'avait amenée à être diagnostiquée. On a fait un parcours de PMA de 7 ans. Jusqu'à un don d'ovocytes, puisque la qualité de mes ovocytes n'était absolument pas satisfaisante pour obtenir une grossesse. Don d'ovocytes qui n'a pas été au bout. Et en fait, au moment où on a lâché prise parce que trop compliqué moralement de tenir ces parcours qui sont vraiment très rudes, on a eu la chance, 2 ans après, d'avoir une première grossesse qui n'a pas été à terme et une deuxième qui l'a été naturellement. Alors que tous les médecins prédisaient que ça ne serait pas possible du fait de l'ampleur des lésions d'endométriose. Donc c'est un peu un message d'espoir que je porte. Ça n'est pas le cas de toutes les femmes et là n'est pas le propos de minimiser certains parcours qui n'y parviendront pas, mais plutôt de dire que parfois, on envisage les choses autrement que par une maternité parce que force est de constater qu'on ne pourra pas faire autrement. Et puis, il y a de bonnes surprises. Là aussi, ça me permet de vraiment réaffirmer cette qualité de prise en charge qui bouge parce que voilà, on peut ne pas faire une croix complète sur la maternité. Et loin de là, voilà.
C'est un message d'espoir, docteur Christine Rousset-Jablon, qu'il faut rappeler aussi. Peut-être que ça peut être une mission de sensibilisation ce matin.
Oui, alors je pense que c'est important aussi de, effectivement, quand on peut avoir un diagnostic tôt, c'est vrai que ça peut permettre de prévenir aussi certains problèmes de fertilité, notamment quand il y a des kystes d'endométriose au niveau des ovaires. On sait que le fait d'avoir une contraception hormonale va éviter qu'ils grossissent et donc on va éviter l'impact potentiel futur sur la fertilité. Et puis on a maintenant depuis quelques années des techniques de congélation d'ovocytes qu'on peut proposer aussi dans certains types d'endométriose pour essayer de prévenir un risque éventuel d'infertilité en congelant en fait des ovocytes dans le cas où au moment du projet de grossesse la femme n'avait plus suffisamment de réserve ovarienne pour être enceinte naturellement. Donc c'est vrai qu'on a maintenant des moyens de prévenir en fait ce risque et encore une fois je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Oui. Sur le fait que le problème de fertilité c'est une préoccupation centrale en fait pour les jeunes femmes, donc il n'est pas question de les inquiéter, il n'y a pas de fatalité, mais il faut y être sensibilisé pour prévenir en fait le risque.
Camille Grange, quand vous avez fait cette enquête, et moi aussi quand j'ai préparé cette émission hier, j'ai trouvé ça vertigineux à quel point il y a tant d'éléments à prendre en compte pour l'endométriose, que ce soit au niveau des symptômes, du diagnostic, des traitements. D'ailleurs, vous êtes entouré de professionnels de la santé, vous l'avez dit, de laboratoires pharmaceutiques. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des tests qui sont en cours.
Il y a du bon et du moins bon, comme dans beaucoup de sujets médicaux. Hein. Ouais. Il y a des intérêts qui sont défendus, il y a des avancées qui sont défendues avec des intérêts, mais voilà, on n'a pas le choix. On a une représentante d'Endomind à nos côtés, c'est l'une des associations qui m'avait dit clairement, en fait, pour l'instant, on n'a pas le choix. L'industrie pharmaceutique est ce qu'elle est et elle défend des intérêts. Et oui, on en est bien consciente, mais ils sont à nos côtés et on prend ce qu'on a à prendre parce que c'est trop complexe, quoi.
Docteur Christine Rousset-Jalonski, vous confirmez, il n'y a pas trop le choix en ce moment.
C'est-à-dire que la recherche pour des nouvelles thérapeutiques en France est partiellement financée par les pouvoirs publics, mais oui. Le coût en fait pour monter des essais cliniques est tel que on n'a pas forcément d'autres possibilités que d'être aidé aussi par les firmes pharmaceutiques qui elles mettent des moyens dans des travaux de recherche. Donc il faut plutôt le voir comme un partenariat ou un travail complémentaire, mais effectivement pour des raisons de lourdeur financière et organisationnelle pour mettre en place des essais cliniques, effectivement les laboratoires ont aussi un rôle à jouer.
On a reçu un témoignage d'un auditeur au Standard, alors qui m'a un peu interpellé et qui nous dit: j'ai une belle-fille dont la mère est décédée de l'endométriose. Christine, est-ce qu'on peut mourir de l'endométriose?
Alors, il faudra avoir un peu plus de précision sur la situation. C'est pas une maladie, qui peut entraîner la mort, qui a un potentiel évolutif, comme le cancer ou d'autres maladies. Mais après, on peut mourir des conséquences, par exemple, d'une chirurgie lourde. C'est vrai que certaines chirurgies, comme je disais tout à l'heure, peuvent être assez délabrantes. Je le verrais plutôt comme ça que un décès vraiment impacté par l'endométriose elle-même, on va dire plutôt des conséquences de la maladie et de sa prise en charge.
Camille Grange, qui doit lire votre bande dessinée, Les Liaisons Dangereuses?
Tout le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, le but c'était pas de faire un énième livre, c'est très bien qu'il y en ait beaucoup, pour les femmes qui sont atteintes et qui connaissent la maladie, c'était d'en parler comme moi j'ai découvert ça il y a quelques années, donc le récit c'est l'histoire de mon travail, en fait, comment j'ai découvert toutes ces petites briques que j'ai ajoutées les unes aux autres, et le but c'était de vulgariser pour des gens qui connaissaient rien comme moi avant, je pense que c'est peut-être une bonne porte d'entrée et qui est pas seulement focalisée sur l'aspect médical ou tout le temps, ou peut-être on va dire entre guillemets féminin, et c'est un travail que j'ai voulu, enfin, pour que ça montre que tout le monde était concerné, en fait.
Ouais. Vous avez eu des retours?
De la part de...
De femmes qui sont atteintes d'endométriose, qui ont lu cette bande dessinée.
Oui, en général, les retours étaient assez enthousiastes. Ouais. Et il y avait aussi des retours de personnes qui ne savaient pas, en fait, qui ne comprenaient pas. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, qui me disaient « j'ai compris ». Voilà, j'ai compris, c'était une lecture, parfois ce qu'on me dit, c'était une lecture très dense, puisqu'il y a tellement d'informations à connaître que la lecture se fait parfois en plusieurs fois. Mais ce but-là, d'atteindre un public qui ne s'y serait pas intéressé par le prisme de l'enquête journalistique, en tout cas, c'est quelque chose qui a marqué pas mal de lecteurs. Ouais.
Céline Ferrara, 20e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer d'en parler et de sensibiliser?
Parce qu'on n'a pas encore découvert tous les mystères de cette maladie, parce qu'encore beaucoup trop de femmes souffrent sans être encore diagnostiquées ou entendues, parce qu'il y a un enjeu de prise en charge, de diagnostic, je viens de le dire, et parce que c'est un problème qui touche bien au-delà des femmes, mais toute la société. Emmanuel Macron l'a dit en janvier 2022, ça a trait à la manière dont on prend en charge les femmes dans leur santé, ça a trait à la manière dont on envisage au-delà de la question de la fertilité une pathologie qui touche beaucoup de monde et qui a beaucoup d'impact. Donc il y a encore un travail qui est long à faire. Et du coup, c'est très positif que beaucoup d'acteurs s'emparent de ce sujet et font face avancer les choses depuis plusieurs années et continuent à avoir la volonté de le faire dans les années futures.
Docteur Christine Rousset-Jalonski, alors je vais reprendre mon expression, ça bouge aussi du côté de la région lyonnaise. Pour celles et ceux qui connaissent les hospices civils de Lyon, qui ont ouvert 3 hôpitaux de jour, docteur, pour faciliter la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui, alors c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment le but en fait de ces hôpitaux de jour, c'est de pouvoir proposer en fait une prise en charge intégrée, c'est-à-dire qui prend en compte à la fois le côté médical pur entre guillemets avec le traitement qui peut être proposé, bon le diagnostic, et puis aussi tout ce qui est la prise en charge, ce qu'on appelle entre guillemets des soins de support, hein, donc la prise en charge de la douleur, parfois la prise en charge avec des kinésithérapeutes. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir une prise en charge globale et de faciliter cette prise en charge en regroupant en fait ces éléments sur une journée. Donc oui, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les femmes.
Est-ce que vous savez si d'autres villes ont lancé le même dispositif ?
Alors, je pense que la plupart des régions essayent effectivement de proposer ce type de programme. Alors, autant possiblement par des hôpitaux de jour et aussi par des réseaux de soins. C'est vrai qu'on a, enfin, vous m'avez présenté en parlant du réseau Andora, qui est le réseau endométriose Auvergne-Rhône-Alpes. Et effectivement, la plupart des régions ont mis en place ce type de réseau qui permet de mettre en lien les différents professionnels de santé. Donc, à la fois les professionnels de première ligne, c'est-à-dire les médecins généralistes, les médecins de famille, les sages-femmes, et puis les professionnels entre guillemets deuxième niveau qui vont être là plutôt soit les gynécologues spécialisés ou les personnes qui sont dans les centres de référence et l'idée de cette mise en lien, ça permet d'avoir un bon maillage et que toutes les femmes puissent avoir accès, toutes celles qui en ont besoin en tout cas, puissent avoir accès à ce type de structure.
Peut-être un dernier conseil de votre part, docteur Christine Rousset-Jalonski, pour celles qui nous écoutent, j'allais dire celles et ceux, mais plutôt celles qui peut-être rencontrent des vraies douleurs et qui peut-être sont atteintes d'endométriose. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ce matin ?
Alors, ce qu'on peut leur conseiller, c'est d'en parler à un professionnel de santé. Alors, toutes les douleurs et toutes les douleurs pelviennes ne sont pas de l'endométriose, mais ça fait partie des premiers diagnostics à évoquer. Et surtout, ça n'est pas normal, entre guillemets, d'avoir mal. Voilà. Donc, en fait, toute douleur doit amener à une exploration, à une discussion.
Voilà. Donc, ne pas s'affoler.
Avec une douleur. Alors, ne pas s'affoler, ouais. Effectivement, ne pas s'affoler, mais en parler et ne pas hésiter à reconsulter si la douleur persiste et qu'elle n'a pas été étiquetée ou qu'elle n'a pas été explorée, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de douleur qui soit normale ou chez toutes les femmes.
Camille Grange, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter de cette enquête ? Je vous prends un petit peu à court, je vous vois faire des gros yeux. Mais quelque chose qui vous a vraiment marqué dans cette enquête ? Qui vous trouble peut-être encore aujourd'hui ?
Peut-être... je ne sais plus quelle expression a été utilisée tout à l'heure, mais pour moi, le résumé de tout ça, de tout mon travail, c'était... J'ai cette image d'un sac de nœuds et je crois que la question qui me restera toujours en tête, c'est c'était le fait de pas avoir d'avoir fait des erreurs au début et de toujours pas avoir la réponse en fait. Là, c'était la première fois que je faisais un travail journalistique médical où on me disait non mais personne n'a de réponse. Et c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter en fait.
Un sac de nœuds. On peut garder cette expression. Céline Ferrara, pardon, je me perds. Une info, Endomarche, une marche mondiale qui va se dérouler le 23 mars prochain, donc dans toute la France et notamment à Paris sur le parvis de la mairie du 15e arrondissement, c'est ça ?
C'est ça. Alors en fait, l'Endomarche, c'est un événement qui a lieu depuis 2014 dans tous les pays du monde à la même date. La prochaine édition de l'Endomarche aura lieu le 23 mars prochain sur le parvis de la mairie du 15e. N'hésitez pas à aller voir toutes les infos sur endomine.org ou sur endomarche.fr. Voilà, endomarche.fr, toutes les informations pour cette belle journée. Camille, Melchior, je vous invite à nous rejoindre pour cette journée parce que ce sera une journée d'information et de rassemblement autour de l'endométriose.
Merci Céline Ferrara d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de Saint-Étienne qui vous accueillait. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'association Endomine. Merci Camille Grange.
Merci à vous.
Pour votre participation. Les liaisons dangereuses, enquête sur l'endométriose aux éditions Lapin. Et on salue également l'illustratrice belge qui vous accompagne, qui s'appelle Mathilde Manca. Merci docteur Christine Rousset-Jablonski également pour votre participation. Gynécologue médicale référente pour le réseau Endora. Et vous intervenez au centre Léon Bérard et aux hospices civils de Lyon. Merci à toutes et tous aussi pour vos nombreux témoignages ce matin. Dans un instant, on va parler de la précarité menstruelle, toujours avec vos témoignages au 04 72 38 20 23. À tout de suite.